est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Dans certaines démocraties, le savant, le chercheur, l'inventeur sont considérés par l'État comme des êtres de choix. En France, on a pris depuis le 19e siècle la criminelle habitude de considérer le créateur des choses de l'esprit comme un être qui peut et doit se tenir à ses seules ressources pour vivre. Pour vivre, je veux dire pour manger, se vêtir, se loger, fonder un foyer.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Un regard frivole sur le destin des droits d'auteur et de l'exploitation des brevets pourrait faire penser qu'il ne s'agit là que d'une question sans élégance de gros sous. Ce serait pourtant une grave erreur. Il ne faut pas en effet se pencher longtemps sur leur évolution dans la durée pour s'aviser qu'en réalité on rencontre là des questions qui sont de grande portée pour la vie culturelle et économique des nations, pour leur énergie, pour leur créativité. Des questions qui se sont posées depuis l'Antiquité et qui se sont intensifiées à mesure que se développaient entre les hommes, entre les peuples, des échanges de toute nature. La défense de la propriété intellectuelle s'affirme en réalité comme indispensable pour appuyer l'invention, la création, l'innovation, en assurant la juste rétribution des talents qui les promeuvent. Mais dans le même temps, il est apparu de longue main qu'il y aurait péril à ce que ces propriétés se perpétuent trop longtemps, au risque de freiner l'émergence nouvelle de projets et de réalisations techniques ou littéraires qui se nourrissent librement de la sève de ce qui fut produit auparavant par l'humanité. Nous venons de voir tout récemment ce débat se déployer à propos des vaccins contre la Covid et de leur éventuelle libre diffusion au profit des pays les plus pauvres. Simultanément, les nouvelles technologies suscitent des affrontements violents autour des dérives qu'elles permettent aux dépens des auteurs, des journalistes ou des musiciens quand ils s'en trouvent privés de leurs droits. Pour replacer ces interrogations contemporaines dans la longue durée, je vais faire appel à la compétence de Gabriel Galvez-Béard, professeur d'histoire contemporaine, doyen de la faculté des humanités à l'université de Lille, spécialiste éminent de ce sujet. Je ne doute pas qu'il va nous en confirmer l'intérêt. Et pour commencer, la parole est à Beaumarchais, grand paladin de ces batailles, le 23 décembre 1791. C'est une pétition à l'Assemblée nationale intitulée « Contre l'usurpation des propriétés des auteurs par des directeurs de spectacles ». Une lecture de Georges Claes.
Il est, dit-on, bien étrange qu'il ait fallu une loi expresse pour attester à toute la France que la propriété d'un auteur dramatique lui appartient, que nul n'a droit de s'en emparer. Ce principe, tiré des premiers droits de l'homme, allait tellement sans le dire, pour toute propriété des hommes acquise par le travail, le don, le vent ou bien l'hérédité, qu'on aurait cru très dérisoire d'être obligé de l'établir en loi. Ma propriété seule, comme auteur dramatique, plus sacrée que toutes les autres, car elle ne me vient de personne et n'est point sujette à conteste pour dol ou fraude ou séduction, l'œuvre sortie de mon cerveau, comme Minerve tout armée de celui du maître des dieux, ma propriété seule a eu besoin qu'une loi prononçât qu'elle est à moi, m'en assura la possession. Mais ceux qui observent ainsi n'ont pas saisi le texte de la loi. Bien est-il vrai qu'on n'osait pas me dire « l'ouvrage sorti de vous n'est pas de vous ». Mais les directeurs de spectacle ont posé cet autre principe. Auteurs dramatiques ont-ils dit « l'ouvrage qui est sorti de vous est de vous, mais n'est pas à vous. Vous n'en obtiendrez aucun fruit. Il est à nous, car nous sommes depuis 100 ans, par longue suite des abus d'un régime prédateur et votre faiblesse avérée, en possession de nous enrichir avec lui sans vous faire la moindre part du produit que nous en tirons. » La loi pour réprimer ce scandale de tout un siècle n'a point dit dans ses deux décrets « l'œuvre d'un auteur est à lui. Ces décrets eussent été oiseux, mais elle a dit formellement qu'attendu les abus passés, les usurpations continuelles établies en droit oppresseur, aucun ne pourra désormais envahir la propriété des auteurs sans encourir tel blâme ou telle peine. Alors, commençant à l'entendre, les directeurs de troupes ont cherché non à nier la justesse de cette loi, mais à l'éluder, s'ils pouvaient, à échapper à sa justice par tous les moyens d'Escobar.
On peut rappeler qu'Escobar était un des jésuites que Pascal pourfendait dans ses provinciales. Gabriel Galvez-Béard, bonjour.
Bonjour.
C'était une archive que j'emprunte au chemin de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture le 19 juin 2006. Nous sommes là d'emblée, d'abord un tournant, celui de la Révolution, nous le verrons tout à l'heure, et nous sommes d'emblée conduits au cœur de la problématique qui va nous occuper ce matin.
Tout à fait, problématique qui se rapporte à la fois à la reconnaissance d'une propriété des auteurs, problématique qui se rapporte aussi à toutes les batailles qui ont été menées au cours du XVIIIe siècle et que la Révolution cristallise aussi bien pour les auteurs dramatiques que pour les auteurs décrits en tout genre, on le verra, mais aussi pour les inventeurs. Donc ce texte de Beaumarchais se trouve à ce moment charnière de cette longue bataille qui continue aujourd'hui.
Et on voit d'emblée que dans ce sujet se mêle bien des dimensions différentes, la dimension juridique naturellement, la dimension technologique, mais aussi politico-idéologique et puis économique.
Tout à fait. Problème économique, puisqu'il s'agit finalement de la reconnaissance d'un travail et aussi d'une reconnaissance qui permet d'apporter des ressources aux auteurs. Un problème politique, vous l'avez dit, car le recours à la loi et donc le recours à la puissance publique est essentiel. Problème aussi moral, il faut bien le dire, car l'un des arrière-plans de toutes ces batailles, aujourd'hui encore, se rapporte à des arguments souvent moraux ou éthiques.
C'est Victor Hugo qui a dit un jour « Ce n'est pas pour un intérêt personnel ou restreint, il s'adressait aux auteurs, que vous êtes ici réunis, c'est pour l'intérêt universel ». C'est ce que les défenseurs des droits d'auteur vont s'efforcer de démontrer en permanence.
Tout à fait, défenseur du droit d'auteur et pourrait-on dire aussi défenseur du droit de l'inventeur, car dans les deux cas, c'est bien le fond commun des connaissances qu'il s'agit d'enrichir.
Les deux questions des brevets et de la protection des droits d'auteur vont être intimement mêlées, je n'en doute pas, dans notre conversation. Mais si vous le voulez bien, remontant dans l'Antiquité, dites-nous s'il y avait déjà des droits d'auteur dans l'Antiquité. Je vous lis et je vois en tout cas qu'il y avait du plagiat, donc on dénonçait, puisque Philarque, historien grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, aurait raconté que la colonie grecque de Sybaris, les Sybarites, conférait aux cuisiniers un monopole d'un an sur l'usage des nouvelles recettes de leur invention.
Oui, c'est sans doute une légende qui est bien commode pour donner une longue généalogie du brevet d'invention et de la propriété intellectuelle. Il faut bien reconnaître que pour l'Antiquité, les sources manquent pour essayer de tracer de manière précise le rapport d'appropriation des auteurs à leur œuvre. N'en demeure pas moins que plus tard, notamment à l'époque hellénistique, un nouveau rapport aux auteurs s'institue. Et par exemple, vous avez aussi cette anecdote du roi Ptolémée qui condamne certains plagiaires qui ont été découverts par le bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie.
Et Vitruve, au 1er siècle avant notre ère, qui écrit des commentaires fameux sur l'architecture, explique que les anciens ne manquèrent jamais de châtier cette sorte de crime que représente le plagiat.
Tout à fait, ce qui montre bien que, en dépit de l'absence de dispositions châtiant la contrefaçon ou le plagiat dans le droit, l'argument moral existe et qu'il est saisi par certains.
Dans ses épigrammes, je vous lis toujours, Martial, un siècle plus tard, accuse un certain Fidentinus, que nous vouons à l'exécration générale, un certain Fidentinus de réciter en public ses propres poèmes en s'en faisant passer pour l'auteur.
Encore une fois, cela montre que cette reconnaissance de l'auctorialité, du statut d'auteur, est déjà quelque chose de présent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, même si, j'insiste, il n'y a pas dans le droit de disposition relative à ce que l'on appelle aujourd'hui la propriété littéraire à l'époque antique, eh bien le rejet, l'exécration, comme vous avez dit, du plagiat, eh bien peut exister dans certaines sources. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que cette proto-histoire de la propriété intellectuelle va être utilisée bien plus tardivement, au XIXe siècle par exemple, pour appuyer une forme de légitimité historique du droit d'auteur ou de la propriété littéraire. L'histoire même de la propriété littéraire ou l'histoire même de la propriété intellectuelle fait partie des combats et des batailles en faveur ou contre la propriété intellectuelle.
Contre, éventuellement, je vois que dans l'entre-deux-guerres, la Cour suprême aux États-Unis se moque de Xerxès, qui aurait voulu s'approprier la mer.
Exactement, et donc l'argumentation historique fait partie de ces débats, et c'est la raison pour laquelle se pencher sur l'histoire de la propriété intellectuelle est nécessaire.
Le Moyen-Âge ne reconnaît pas vraiment le droit d'auteur.
Non, le Moyen-Âge ne le reconnaît pas, mais ce qui est intéressant, c'est que, en dépit d'un préjugé que l'on peut avoir sur une forme de gratuité du savoir à l'époque médiévale, savoir qui est concentré dans certaines sphères de la société médiévale, faut-il le rappeler, eh bien, la question de la valeur du savoir et même de sa valeur économique est déjà posée à la fin du XIVe siècle, déjà au XVe siècle, dans les universités, plus exactement dans les facultés de droit, dans le nord de l'Italie, le savoir juridique se monnaie en définitive. C'est déjà un premier point. L'autre point, c'est que les savoir-faire, les savoirs artisanaux, font aussi l'objet d'une vigilance, d'un contrôle par les corporations, ce qui a amené l'historienne Pamela Long à parler de propriété intellectuelle dès cette époque.
On voit donc dès cette époque aussi se mêler la question des privilèges et parfois des corporations, avec l'idée de la défense des inventions.
Tout à fait. Dès le XVe siècle, certains privilèges sont déjà utilisés pour permettre à des inventeurs d'avoir un monopole d'usage de leurs inventions. L'un des plus fameux est Brunelleschi, l'architecte de la coupole de Santa Maria di Fiore à Florence, qui va avoir, en 1421, un privilège pour la fabrication d'un navire, par exemple. Ce qui va être beaucoup plus fort, ça va être la mesure prise en 1474, à Venise, d'instituer une loi sur les privilèges pour les inventeurs.
Alors ça, il faut citer cette loi, parce que, en tout cas, ses motivations, parce que c'est vraiment un coup d'envoi pour ce que nous appelons aujourd'hui la protection des auteurs et des inventeurs. Il a été décidé que quiconque créera dans cette cité quelque machine nouvelle et ingénieuse, jamais conçue auparavant sur notre territoire, devra l'enregistrer au bureau de nos proviseurs de la commune dès qu'elle sera sur le point d'être utilisé. Il sera interdit pendant 10 ans, c'est déjà la question de la durée de la protection que nous aurons à considérer plus tard, il sera interdit pendant 10 ans à toute autre personne, sur chacun de nos territoires et de nos places, de faire quelque autre machine, de même forme ou ressemblance, sans le consentement et l'autorisation de l'auteur.
Voilà. C'est la première loi moderne sur ce qu'on appellera plus tard les brevets d'invention. Venise est au cœur et le centre d'une économie monde. Et dans cette loi, comme vous l'avez dit, les motivations sont diverses. Et notamment, on entend dans le préambule une importance donnée à l'attractivité de Venise, qui veut faire venir à elle les talents de ces hommes ingénieux qui vont pouvoir promouvoir sur ces terres des techniques nouvelles.
D'abord, il s'agit des moulins, de drainage, ensuite du textile.
Bien sûr, les privilèges vont porter sur ce qui intéresse la Sérénissime, et notamment les questions de drainage en premier lieu. C'est une loi importante parce que c'est une loi. C'est-à-dire que, avec la Parte Venediana de 1474, les privilèges ne sont plus seulement délivrés de manière ponctuelle, de manière individuelle. La loi prévoit un dispositif général pour toute personne qui répond à ces critères. Et donc là, la République de Venise se dote d'un dispositif général.
Il n'y a pas de solution de continuité avec les décisions de l'Angleterre, 1624. Vous faites un sort dans votre livre, Gabriel Galvez-Béat, au statut des monopoles, Statute of Monopolies d'Angleterre en 1624.
Alors, Tout à fait, mais il y a plus d'un siècle entre cette loi vénitienne de 1474 et le statut des monopoles anglais de 1624. Et si vous le permettez...
Je le permets.
Merci. Il me semble que un point important est de signaler la migration de la mode, si je puis dire, des privilèges avec, par exemple, les verriers vénitiens eux-mêmes. Ce recours au privilège d'invention, eh bien, va être repris dans d'autres pays, comme la France, au XVIe siècle. Des privilèges sont décernés à des inventeurs dès le XVIe siècle, et en Angleterre également. Ce qui intervient tout début du XVIIe siècle, c'est un mésusage tout d'abord des privilèges, puisque les monopoles qui sont conférés par la couronne anglaise le sont souvent, dès le règne d'Élisabeth et plus encore au début du règne de Jacques Ier, le sont pour des raisons de gros sous, comme vous disiez tout à l'heure, des raisons fiscales. Il s'agit pour la couronne de monnayer des privilèges et des monopoles. Le Parlement s'en offusque. Et c'est cela qui aboutit au statut des monopoles. Et ça, c'est un point important à souligner, me semble-t-il, en écho avec les débats actuels. C'est que le statut des monopoles est d'abord une limitation des monopoles. Et les monopoles pour les inventions sont une exception à l'interdiction générale. Donc on aménage dans ce statut des monopoles, qui interdit globalement les monopoles, sauf quelques-uns, eh bien, une exception pour les inventions qui peuvent faire l'objet de monopoles délivrés par la couronne.
Vous évoquez l'actualité. Est-ce qu'il serait aventuré de dire qu'au fond, il y a des points communs avec les grands débats actuels pour savoir si les l'ARN messager, si tous ces brevets peuvent et doivent devenir génériques et être proposés aux pays les moins favorisés?
C'est une question redoutable à laquelle il faut répondre par l'affirmative. Parce que dans les deux cas, la question du monopole est centrale. Bien entendu, elle ne se pose pas dans les mêmes termes, à plusieurs siècles de distance, mais la contestation des monopoles au XVIIe siècle, eh bien, n'est pas sans rappeler la contestation des monopoles aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le statut des monopoles de 1624 procède d'une norme qui est l'interdiction générale, ou en tout cas, la norme est bien de contenir le monopole. Aujourd'hui, la brevetabilité, et notamment avec son extension dans le domaine du vivant, par exemple, aujourd'hui, la brevetabilité est devenue la norme. Ou en tout cas, du point de vue de certaines institutions juridiques ou de certaines institutions administratives. Et donc, dans une certaine mesure, eh bien, en quelques siècles, il y a eu une forme de renversement qui accorde, en dépit des législations qui peuvent exister sur la protection de la concurrence, eh bien, un nouveau statut au monopole qui était rejeté naguère.
À cette époque, on voit aussi apparaître une donnée qui reste vivante, c'est la question de la géographie de la protection, la géographie des droits d'auteur. Est-ce qu'il y a des limites, des frontières? Est-ce qu'ils doivent devenir universels? C'est un grand débat.
C'est un vaste débat. Les privilèges qui sont délivrés peuvent l'être de manière tout à fait particulière. N'oublions pas que le privilège est une, si l'on peut dire, une loi individuelle qui, de fait, peut permettre des mesures ou des critères tout à fait particuliers, notamment en termes spatiaux. Vous pouvez avoir un privilège sur tel ou tel territoire.
D'ailleurs, on a bien vu cela, si je franchis les siècles, au moment du développement des droits d'auteur universels à la fin du 19e siècle. Je songe à Clémenceau arrivant en 1910, après avoir quitté le pouvoir pour faire des conférences à Buenos Aires, en Argentine, et apprenant que on va jouer des pièces françaises, et notamment la sienne, on pensait que ça lui ferait plaisir, Le Voile du Bonheur, sans qu'on ait réglé encore la question des droits d'auteur par rapport aux œuvres européennes. Manana, 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 il se moque de demain, demain, plus tard, plus tard. Et il obtient, avant qu'on montre sa pièce, que le Parlement argentin fasse voter une loi qui rallie les règles européennes. C'est une loi qu'on appelle aujourd'hui la Ley Clemenceau. L'Amérique latine est touchée désormais par les droits d'auteur. Oui, le tigre s'intéressait aux droits d'auteur depuis longtemps, puisqu'il avait soutenu en août 1994 une proposition de Mallarmé dans le Figaro qui voulait prolonger de quelques années les droits d'auteur après leur expiration normale pour constituer un fonds littéraire destiné à aider de jeunes écrivains débutants et démunis. Et dans ses notes de voyage, il conclut cet heureux épisode par un hommage fort diplomatique à ses hôtes argentins. Du jour où les hommes d'État argentins ont compris que le travail purement intellectuel devait être constitué dans ses droits au même titre que n'importe quel autre labeur, et que s'arroger le pouvoir d'en dérober les produits, c'était se placer en dehors du mouvement de la vie civilisée, ils ont mis leur point d'honneur à se rendre, avec une parfaite bonne grâce, aux invitations qui, de toutes parts, leur étaient adressées. Faisons honneur à la République argentine. On ne peut pas être plus aimable, tout fut bien, en l'occurrence, qui finit bien.
Alors, c'est une question importante que la question de l'extension de la propriété intellectuelle en général, du droit d'auteur en particulier, de manière universelle, à l'échelle de la planète. Et le point qui est important, c'est de remarquer que le droit d'auteur fait l'objet d'une certaine diversité, se caractérise par une forme de diversité. Dans l'exemple que vous donnez, l'Argentine n'était pas dépourvue d'une législation propre. Le point qui était crucial, c'est que les formalités de protection n'étaient pas les mêmes, ce qui permettait dans les faits une contrefaçon des œuvres venues d'Europe. Et finalement, ce décalage entre la protection valable dans chaque nation est aussi un moteur de la dynamique de la propriété intellectuelle à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Et si l'on revient à notre période moderne, si je puis dire,
oui.
Eh bien, il est vrai que le point essentiel du privilège, c'est la puissance publique, la puissance royale, le bien souvent, qui est derrière et qui délivre un droit dans le ressort qui est le sien.
Et comme souvent, l'Angleterre est en avance par rapport au reste de l'Europe, quelque comme Defoe. Le fameux auteur de Robinson Crusoe s'engage en disant qu'il faut protéger le rejeton de mon cerveau.
Alors, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait dans une conjoncture qui est tout à fait particulière, au lendemain de la révolution de 1689, où la censure, qui, faut-il le rappeler, est un élément structurant de l'économie du livre à l'époque moderne, et donc des privilèges d'édition.
Donc du droit d'auteur.
Et donc du droit d'auteur. Eh bien, cette censure est remise en cause à la toute fin du XVIIe siècle en Angleterre. Et Defoe défend une ligne tout à fait limpide, qui consiste à dire, puisque l'auteur est responsable de ce qu'il dit, et notamment face à une censure ou face aux autorités, pourquoi ne serait-il pas propriétaire de ce qu'il écrit? C'est le premier point. Le deuxième point que défend Defoe, c'est l'idée d'une parenté un peu complexe avec l'inventeur. Parce que, comme nous l'avons dit, le statut des monopoles de 1624 permet aux inventeurs de bénéficier d'un monopole pour l'exploitation de leurs inventions. Et Defoe se dit, mais pourquoi les inventeurs auraient-ils un droit et pas les auteurs? Et donc, Defoe, au tout début du XVIIIe siècle, en 1709, utilise l'argument de l'existence d'un droit des inventeurs, fut-il seulement défendu par des privilèges, pour défendre un droit des auteurs qui va être sanctionné par le statut de la reine Anne de 1710.
Et c'est un combat, nous le savons, qui va prendre toute son ampleur au temps des Lumières en France, avec Beaumarchais, que nous entendions tout à l'heure, aussi avec Diderot, qui se bat pour les droits d'auteur. Écoutez donc ce propos de Diderot, c'est un extrait d'une lettre adressée à un magistrat en 1763, que Georges Clès lit dans Les Chemins de la Connaissance, même émission que tout à l'heure, Jacques Munier, France Culture, 20 juin 2006.
Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. Quelle comparaison entre l'homme, la substance même de l'homme, son âme, et le champ, le pré, l'arbre ou la vigne que la nature offrait dans le commencement également à tous et que le particulier ne s'est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de possession. Qui est plus en droit que l'auteur de disposer de sa chose par don ou par vente?
Il est notable, Gabriel Galvez-Béart, que Condorcet s'oppose à cette démonstration. Il dit que il n'y a de propriété que matérielle et le droit de l'auteur n'est pas un véritable droit. Il ne peut y avoir aucun rapport, Condorcet, entre la propriété d'un ouvrage et celle d'un champ qui ne peut être cultivé que par un seul homme, d'un meuble qui ne peut servir qu'à un seul homme et dont par conséquent la propriété exclusive est fondée sur la nature de la chose. Ainsi, ce n'est point une propriété dérivée de l'ordre naturel et défendue par la force sociale.
Les termes du débat sont posés. Dès cette époque, le texte de Diderot est admirable, déjà parce qu'il intervient dans une conjoncture tout à fait précise, celui de l'affaire des petites filles de La Fontaine, qui avaient obtenu la possibilité de faire éditer elles-mêmes les fables de leur grand-père, après que les privilèges détenus par les libraires fussent échus. C'est aussi un texte important parce que il pose les principes d'une sorte de théorie de la propriété littéraire, en concevant l'œuvre comme le prolongement de ce qu'il y a de plus intime dans la personne de l'auteur, et faisant écho, peut-être, à la philosophie de Locke, par exemple, selon laquelle le produit du travail doit être la propriété de celui qui travaille, pour des raisons similaires, eh bien, Diderot justifie ainsi la propriété. C'est un texte aussi important, que l'on pardonne ici la vision un peu téléologique, parce que cette matrice va être reprise au moment de la Révolution française dans tous les rapports que les députés feront pour défendre les lois qui seront prises à ce moment-là.
Nous y arrivons, mais avant, il faut tout de même rappeler à nouveau le rôle de Beaumarchais.
Bien sûr, Beaumarchais, grand paladin, vous l'avez dit tout à l'heure, du droit des auteurs dramatiques, hein, qui, en 1777, organise la Société des auteurs dramatiques pour se défendre contre les directeurs de compagnies qui ne veulent pas rétribuer les auteurs à la mesure de ce qu'ils devraient recevoir. Nous sommes là aussi dans des affaires de gros sous. Et d'ailleurs, Beaumarchais, on le sait, est très attentif à la tenue des comptes des compagnies. Et du coup, il va être l'un des promoteurs de la reconnaissance du droit des artistes dramatiques qui intervient à la Révolution.
La Révolution, et là, on légifère pour la première fois sur ces questions de droit d'auteur, en plusieurs étapes d'ailleurs. Et voici deux articles de la loi, d'une des lois, celle des 19 et 24 juillet 1793, sur les droits d'auteur, lu dans les chemins de la connaissance de Jacques Munier en octobre 2003.
Loi des 19-24 juillet 1793. Article 1er. Les auteurs décrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou partie. Article 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de 10 ans après la mort des auteurs.
On a le sentiment, Gabriel Galvez-Béart, qu'on entre là dans la modernité, quitte à considérer qu'il y a des débats sur la durée de la propriété intellectuelle après la mort de l'auteur.
Alors, on entre dans la modernité parce que, effectivement, la Révolution consacre, cristallise des progrès qui ont eu lieu un peu avant. Faut-il rappeler que, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, des mesures importantes avaient été prises pour la reconnaissance de la propriété littéraire, notamment les arrêts de 1777 où l'administration royale en France remet un peu de l'ordre dans les privilèges d'édition sans pour autant reconnaître une propriété littéraire. Et c'est là où la Révolution apporte quelque chose. C'est qu'elle consacre la reconnaissance d'une propriété. Elle le fait pour les auteurs décrits en tout genre, dans le texte que nous venons d'entendre. Elle le fait aussi pour les inventeurs. Rappelons-nous que dans le préambule de la loi du 7 janvier 1791, qui reconnaît un droit aux auteurs de découvertes utiles, eh bien, ce droit est reconnu comme un droit de l'homme. Le paradigme, pour ainsi dire, a complètement changé. Le droit des créateurs, eh bien, est reconnu comme un droit naturel. Et donc, c'est en cela que la Révolution apporte quelque chose de neuf et sans doute une rupture. Mais une rupture qui n'est pas universelle pour autant. Il y a d'autres révolutions. La révolution américaine a apporté quelque chose. La constitution américaine de 1787 confère au Congrès le droit de pouvoir donner des droits exclusifs pour les auteurs de découvertes dans les sciences ou les arts utiles. Mais la logique n'est pas tout à fait la même. Ce n'est pas la reconnaissance d'un droit naturel, c'est là la reconnaissance d'un droit utile à la société. Il n'en demeure pas moins que, dès la fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, à l'échelle transatlantique tout du moins, eh bien, la propriété littéraire, la propriété des inventeurs, encore que les termes, et on le verra, le terme de propriété est fortement débattu, sont ancrés grâce aux batailles qui ont eu lieu au siècle précédent.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors s'ouvre le 19e siècle où cette bataille, ce choc entre des personnages éminents et aussi entre des deux doctrines essentielles va se manifester, se développer. D'un côté, ceux qui pensent que il faut considérer la propriété intellectuelle comme la propriété matérielle et qu'elle doit rester dans les mains des descendants, dans l'éternité en somme, comme un immeuble. Ceux qui pensent au contraire qu'il n'est de création que déterré de la nature et que finalement c'est le mérite de tout ce qui a précédé que le développement de l'invention, que le développement de la littérature. Et par conséquent, on n'a pas de légitimité à en être propriétaire. C'est Louis Blanc, le socialiste, qui se fait le protagoniste de cette démonstration. Le travail artistique ne peut pas être vénal et il le fait observer que Rousseau copiait de la musique pour vivre et faisait des livres pour instruire les hommes. Et en face, il y a ceux comme Bastia ou comme Valras qui pensent qu'il faut être propriétaire éternellement de son œuvre.
Effectivement, le 19e siècle déplace les débats, mais les reprend pour partie, notamment sur la base, on l'a vu, de ces arguments développés par Diderot ou par Condorcet. Le fait est que les débats se portent à plusieurs niveaux. Déjà sur la propriété, dont on sait qu'elle est contesté en soi par tout un courant socialiste que vous avez rappelé à l'instant.
On peut ajouter Proudhon à Louis Blanc.
Bien entendu. Et cette contestation de la propriété en général, eh bien, s'applique en particulier à la propriété littéraire ou à la propriété industrielle, sur la base d'arguments qui sont ceux que vous venez de rappeler. Le point qui est aussi important à souligner, c'est que, de l'autre côté du spectre, les défenseurs de la propriété littéraire essaient de pousser l'avantage. Cette propriété a été reconnue. Il s'agit donc, eh bien, d'en obtenir la prolongation, ou en tout cas l'extension dans le temps, voire la perpétuité. Un auteur comme le directeur du musée industriel de Bruxelles, Jobard, un homme important dans ces débats, réclame la propriété perpétuelle pour les auteurs, mais aussi pour les inventeurs. Parce que, dit-il, cette propriété est une propriété, et il n'y a pas de raison qu'elle soit différente de la propriété foncière, par exemple, qui se transmet de génération en génération. Il n'en demeure pas moins que, quand bien même on accepte la propriété, cette propriété intellectuelle qui s'affirme de manière difficile, parfois, fait l'objet aussi de contestations. La propriété industrielle, les brevets d'invention font l'objet de contestations fortes de la part, par exemple, de certains libéraux qui contestent l'emploi du monopole, contraire au mouvement de libre-échange qui s'affirme alors.
On trouve peut-être une prolongation de cela chez certains libéraux d'aujourd'hui, d'un côté, qui se trouve allié avec ce parti pirate qui, à Bruxelles, récemment, a défendu exactement l'idée qu'il n'y avait pas motif à protéger sévèrement les droits, notamment les droits voisins.
C'est en effet un paradoxe, une sorte d'antinomie à laquelle est confrontée la raison libérale avec la propriété intellectuelle qui instaure un monopole qui ne se justifie pas forcément. D'un côté, la propriété intellectuelle peut apparaître comme quelque chose d'illégitime du fait de l'entrave qu'elle constitue pour la liberté du travail, comme on dit au XIXe siècle, mais de l'autre, d'autres libéraux défendent l'idée d'une propriété des droits du créateur. l'école libérale française elle-même va être en tension sur ce type de questions qui constitue un débat extrêmement intense dans les années notamment 1860.
Eh bien, donnons la parole à deux de ces auteurs prestigieux du 19e qui s'expriment sur ces sujets. Lamartine, d'abord, sur le projet de loi qui a été présenté en 1841 sous la monarchie de Juillet à la Chambre des députés, et un extrait d'une note de Balzac qui s'exprime notamment sur la question du délai après la mort. Écoutons Lamartine et écoutons Balzac.
Qu'est-ce que la justice si ce n'est la proportion entre la cause et l'effet, entre le travail et la rétribution? Un homme dépense quelques portions de ses forces, quelques heures faciles de sa vie à l'aide d'un capital transmis par ses pairs, à féconder un champ ou à exercer une industrie lucrative. Il entasse produit sur produit, richesse sur richesse. Il en jouit lui-même dans l'aisance ou dans les délices de sa vie. Vous lui en assurez la possession à tout jamais, et après lui, à ceux que le sang désigne ou que le testament écrit. Un autre homme dépense sa vie entière, consume ses forces morales, énerve ses forces physiques dans l'oubli de soi-même et de sa famille, pour enrichir après lui l'humanité ou d'un chef-d'œuvre de l'esprit humain ou d'une de ses idées qui transforme le monde. Il meurt à la peine, mais il réussit. Son chef-d'œuvre est né. Son idée est éclose. Le monde intellectuel s'en empare. L'industrie, le commerce, les exploite. Cela devient une richesse tardive, posthume souvent. Cela jette des millions dans le travail et dans la circulation. Cela s'exporte comme un produit naturel du sol. Tout le monde y aurait droit, excepté celui qui l'a créé, et la veuve et les enfants de cet homme qui mendieraient dans l'indigence à côté de la richesse publique et des fortunes privées enfantées par le travail ingrat de leur père.
C'était Lamartine et maintenant Balzac.
En accordant 50 ans, vous entendez faire jouir les fils des travaux du père. Il ne saurait y avoir d'autre raison, n'est-ce pas? Eh bien, vous décidez alors que les enfants d'un homme de génie ne vivront que 50 ans. Et vous entendez que les belles œuvres seront comprises immédiatement. Vous oubliez que Vico, cette chrysalide centenaire, éclot en ce moment. Cathalie n'a été comprise en France qu'un demi-siècle après la mort de Racine, que Rabelais, l'un de nos plus grands génies, n'est pas encore entendu dans toute sa portée et qu'il est encore discuté. Que 12 ans ont séparé la première partie de Don Quichotte de la seconde, faute de libraire qui voulut l'imprimer. Si l'on accorde 50 ans, pourquoi pas la perpétuité? Qui donc peut empêcher la reconnaissance de la seule propriété que l'homme crée sans la terre et la pierre et qui est aussi durable que la terre et la pierre? Une propriété qui se trouve constituée entre la terre et le ciel à l'aide des rebuts de la société, le noir de fumée pris à des eaux et les chiffons laissés sur la voie publique.
Ces deux textes sont de mars 1841. Période importante, je crois, Gabriel Galvez-Béa.
Tout à fait. Cette décennie 1840 est importante en France, mais aussi en Europe et dans le monde, pour l'évolution de la propriété intellectuelle en général. Les deux textes font référence aux demandes, aux propositions de lois sur la propriété littéraire, mais...
C'est plus large.
C'est plus large, parce qu'en même temps est débattue la réforme de la loi sur les brevets d'invention. Et là, il y a plusieurs choses à dire. C'est que lorsque est débattue la loi sur les brevets d'invention, qui va donner lieu à la loi de 1844, loi extrêmement importante pour l'invention en France au XIXe siècle, pendant la Révolution industrielle, eh bien, on fait référence à la propriété littéraire. Mais certains s'en offusquent. Montalembert, par exemple, à la Chambre des Pairs, refuse que l'on puisse comparer l'œuvre d'un génie littéraire avec celle d'un ingénieur ou d'un artisan. Et donc, on voit bien que ces débats font système, si je puis dire, que ces différents droits sont discutés en même temps. Et pour en revenir à l'extrait que vous venez de diffuser, la question de la durée de la propriété littéraire est aussi importante, et elle n'est pas sans rappeler l'extension actuelle de la durée du droit d'auteur ou du copyright qui est réclamée par l'industrie culturelle pour faire vivre les œuvres qui constituent finalement son fonds de commerce, par exemple. Donc, nous avons, dès le 19e siècle, des enjeux extrêmement lourds qui sont déjà posés.
Rappelez quel est le principe actuel en Europe et en Occident sur la durée après la mort.
Alors, elle est variable, mais par exemple, aux États-Unis, elle peut atteindre jusqu'à 120 ans après la publication, par exemple.
Cela aurait fait plaisir à nos libéraux de 1860-70 qui étaient favorables à la perpétuité de la propriété.
Ça aurait fait plaisir à nos libéraux, mais sans doute pas à nos socialistes.
La fin du 19e voit la réussite d'un certain nombre d'efforts pour universaliser les règles.
Tout à fait. Et au-delà de ça, pour ancrer aussi bien le droit d'auteur que la propriété industrielle, le droit du brevet donc, et aussi le droit des marques. Et c'est un point important parce que les années, je l'ai mentionné tout à l'heure, 1860, ont été des moments de débats intenses, voire de contestations. Rappelons que les Pays-Bas abolissent leur législation sur le brevet d'invention en 1869, car finalement le brevet n'est utilisé que par des industriels étrangers aux Pays-Bas. Avec l'entrée dans la Grande Dépression à partir des années 1870, eh bien les industriels s'emparent d'une propriété industrielle qui peut les protéger. Et dans les années 1880, aussi bien pour le droit de la propriété industrielle, des brevets, des marques, que pour le droit d'auteur, sont mises en place de grandes conventions internationales, l'Union de Paris et l'Union de Berne.
1886
pour l'Union de Berne, 1883 pour l'Union de Paris, qui posent les bases d'une régulation internationale de ces droits, sans pour autant, et c'est là aussi l'un des paradoxes, les homogénéiser complètement.
Le rebond le plus important dans notre époque contemporaine, c'est le paragraphe que la Déclaration universelle des droits de l'homme, après la Seconde Guerre mondiale, consacre précisément à ces questions.
Exactement, dans son article 27, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la propriété intellectuelle. Mais ce qui est intéressant de remarquer, et ça nous renvoie à ce jeu finalement d'échelle entre l'horizon universel et puis la place des nations, c'est que cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, résulte d'une pression extrêmement importante de la France, en la personne d'ailleurs de René Cassin, qui a été l'un des grands artisans de cet article.
C'est pour ça qu'on l'a mis au Panthéon. Mais ça répond évidemment à ce recul qu'ont constitué les décisions d'un certain nombre de dictatures, qu'il s'agisse de l'URSS ou qu'il s'agisse du fascisme et du nazisme, à l'égard du droit d'auteur.
Alors, recul...
Le mot n'est pas juste.
Les choses peuvent se discuter et de manière assez complexe, notamment pour l'Allemagne, qui réforme aussi bien le droit de l'inventeur que le droit d'auteur au milieu des années 1930. Et ces réformes vont quand même perdurer jusqu'aux années 1960. Il n'en demeure pas moins que, dans les pays socialistes, le droit de l'inventeur, par exemple, est complètement revu, mais là encore avec un paradoxe assez amusant, puisque l'Union soviétique met fin à toute idée de brevet délivré à l'inventeur.
C'est trop capitaliste.
C'est trop capitaliste, c'est l'État qui a le monopole de l'invention. Il n'en demeure pas moins qu'est mis en place un certificat d'auteur. C'est une forme de reconnaissance symbolique de sa contribution à l'invention. Et donc, en définitive, là où le collectivisme gère les gros sous, si je puis dire, eh bien, le certificat d'auteur reconnaît quand même, c'est une forme d'individualisme, la contribution individuelle des uns et des autres.
Sans faire vivre l'inventeur et encore moins sa veuve, parce que l'image de la veuve, de l'inventeur ou de l'écrivain est très prégnante tout au long de ces débats.
Tout à fait, l'image de la veuve, alors, de manière beaucoup plus générale,
enfin,
et des enfants, est très importante, et elle est liée à la question, donc, de la durée de ses droits.
Il faut aussi que nous parlions Gabriel Galvez-Béart, car c'est un sujet qui émerge au tournant du 19e et du 20e siècle, la grande question de la brevetabilité du vivant. Je pense à ce cas topique de celui qui avait mis au point une nouvelle forme d'œillet avant la Seconde Guerre mondiale. Cet œillet a été volé par quelqu'un qui l'a diffusé, l'inventeur, celui qui se jugeait comme l'inventeur de cette nouvelle forme d'œillet, s'est évidemment plaint, a fait un procès à celui qui avait exploité après lui ses plantes, et le tribunal, dans un premier temps, a donné tort à celui qui se plaignait, en disant « vous n'avez pas à posséder quoi que ce soit qui surgit de la nature ».
Alors, cette question de la brevetabilité du vivant, elle est extrêmement importante, aujourd'hui notamment du fait du développement et du rôle majeur que jouent les biotech, l'industrie de la biotechnologie dans le développement économique et aussi scientifique, elle pose déjà la question de la brevetabilité au sens large. La brevetabilité au XIXe siècle, elle repose notamment sur la nouveauté, sur le caractère industriel de l'invention. Et bien évidemment, le vivant n'est pas nécessairement considéré comme quelque chose d'industriel. Il est intéressant de remarquer toutefois que, dans la pratique, les inventeurs vont être aux prises avec la question du vivant, à commencer par Pasteur, par exemple. Vous savez que Pasteur entreprend des travaux sur la fermentation dès 1857.
Et dépose des brevets.
Et dépose des brevets. Et dépose en 1861 un brevet sur la fabrication du vinaigre. Mais son procédé de fabrication du vinaigre repose sur l'usage de la levure.
Nous lui avions consacré récemment une émission et nous avions évoqué cet aspect de son action qui est moins connu que d'autres.
Exactement. Alors là, Pasteur ne réclame pas de monopole sur la levure à proprement parler, mais on voit bien que l'organisme vivant est au cœur de son invention. Plus intéressant est le brevet que le japonais Mikomoto Kokichi prend en 1894 au Japon sur une technique de fabrication des perles. Et là, ce brevet va donner lieu à des débats très importants, très intenses, sur, finalement, la validité du brevet. La perle est vivante, elle est créée par l'huître, et donc le brevet est contesté, il n'en demeure pas moins que le Japon, les tribunaux japonais vont reconnaître la validité de ce brevet. Et progressivement, pour en revenir au cas que vous évoquiez, eh bien, les semenciers, par exemple, au début du XXe siècle, vont faire pression pour obtenir la reconnaissance d'un droit spécifique qui va être consacré en 1961 par l'Union pour la protection des obtentions végétales, qui permet de protéger les variétés nouvelles, homogènes et stables, variétés végétales bien entendu, par un droit spécifique. Et donc là encore, nous avons une sorte d'enrichissement de la propriété intellectuelle par l'apparition, la reconnaissance d'un droit nouveau, qui va rejoindre, si je puis dire, cette grande famille.
Et cela conduit aussi à des débats entre les différents propriétaires potentiels. Je pense à cette controverse toute récente sur le brevetage d'une molécule extraite d'une plante utilisée par les Guyanais. Elle s'appelle Quassia amara. Est-ce qu'on peut s'approprier commercialement une ressource génétique naturelle sans en partager les bénéfices avec les peuples qui l'ont veiller au cours des siècles?
Alors, il y a là plusieurs questions qui sont effectivement très, très importantes. Toujours sur la brevetabilité du vivant, ce qu'il faut noter, c'est que cette brevetabilité s'est étendue, notamment à partir des années 1960. Cela a été retracé par les travaux de Marie-Angèle Hermite, par exemple. Le fait est que progressivement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, le vivant devient brevetable. En 1980, la Cour suprême des États-Unis reconnaît la validité d'un brevet portant sur une bactérie génétiquement modifiée.
On est loin de celui qui avait inventé un nouvel œillet et qui n'a pas été protégé.
Le statut de la microbiologie et de l'industrie microbiologique du vivant, si je puis dire, est extrêmement importante. En 2015, une chambre de l'Office européen des brevets va encore plus loin. Donc, c'est un point vraiment notable que cette extension de la brevetabilité du vivant, mais le cas que vous venez de mentionner renvoie aussi à la question de la protection de la propriété intellectuelle des peuples autochtones, à savoir le fait que le patrimoine, les savoir-faire plus exactement de certains peuples autochtones, eh bien, risquent d'être captés par l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique, ce savoir-faire qui repose sur la valorisation de certaines plantes à des fins médicales ou cosmétiques, et du coup, ces peuples, à travers les pays qui les représentent, ont obtenu ou tentent d'obtenir une reconnaissance de leurs droits.
Il y a un autre aspect qui frappe à vous lire, Gabriel Galvez-Béard, c'est que le développement du capitalisme immatériel, à la fin notamment du XXe siècle et aujourd'hui, augmente le rôle de la propriété intellectuelle, forcément.
Alors, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire sur cette notion de capitalisme immatériel, qui renvoie aussi à un capitalisme très matériel. Mais la question...
Quand même, on vient d'apprendre qu'une intelligence artificielle en Afrique du Sud a été reconnue comme inventeur lors d'un dépôt de brevet.
Oui, et puis il y en a même eu en Chine qui est reconnu comme patron d'une entreprise. Donc nous voyons que effectivement le capitalisme immatériel a de beaux jours devant lui. Il n'en demeure pas moins que la place de la propriété intellectuelle y est essentielle, car c'est elle qui garantit les investissements, la valeur des investissements dans la recherche et dans le développement. Mais c'est un point important qu'il faut la souligner, c'est que la justification de la propriété intellectuelle n'est plus la même, du coup. Là où nous avions, et ce n'était pas la seule, bien entendu, mais là où nous avions une justification sur une base personnelle, la propriété intellectuelle comme droit d'un créateur, droit d'un auteur, droit d'un inventeur, prolongation de sa personne, nous avons maintenant une propriété intellectuelle qui est justifiée, défendue comme un outil indispensable à la protection des investissements faits par des entreprises multinationales et, pour ainsi dire, géantes.
Le fossé se creuse par conséquent entre les deux branches de votre analyse, c'est-à-dire les droits d'auteur des écrivains ou des musiciens et, d'autre part, les brevets.
Alors, pas nécessairement entre ces deux branches de la propriété intellectuelle, mais surtout entre, finalement, les différents types de détenteurs. La propriété littéraire, ou le droit d'auteur, ou le copyright, sont au cœur du développement des grandes industries culturelles, des grandes maisons d'édition, des grandes maisons de... des grands producteurs de cinéma, par exemple. Le point qui est vraiment important, me semble-t-il, c'est de noter que la propriété intellectuelle n'a pas la même dimension, n'a pas le même sens en fonction de celles et ceux qui l'utilisent. Et aujourd'hui, les détenteurs massifs sont les grandes entreprises qui, du coup, ont un usage de la propriété intellectuelle pour défendre des investissements, mais aussi pour asseoir des positions de marché qui peuvent confiner au monopole, voire pour développer des activités financières sur la seule base de la propriété intellectuelle.
Et qui se battent bec et ongles, comme il est naturel, pour défendre ses avantages. Je vois que tout récemment, plusieurs personnalités importantes sont intervenues pour obtenir que l'ARN messager soit... désormais de libre accès. C'est François Hollande a rejoint Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique. Gorbatchev, ça a été sûrement un de ses derniers actes, et plusieurs prix Nobel.
Bien entendu, cela renvoie au statut de cette propriété intellectuelle au cœur de la crise pandémique. Le fait que nous avons vécu un moment extrêmement contradictoire avec, d'un côté, une crise sidérante, mais d'un autre côté, une capacité de réponse grâce à la mise au point de vaccins extrêmement rapide. Mais ce qui est important de noter, c'est que la mise au point du vaccin à base d'ARN messager a été rendue possible, ou à tout le moins s'est inscrite dans un usage intensif de la propriété intellectuelle par les acteurs, qu'il s'agisse de Pfizer, de Moderna, par exemple. Le monde de l'industrie du vaccin repose sur cet usage massif de la propriété intellectuelle, de licences croisées entre les start-up, entre les industries. Mais d'un autre côté, on a vu aussi que l'accès aux vaccins et l'accès aux vaccins à bas prix dans certaines régions du monde en était peut-être freiné, ce qui a motivé des demandes de lever des brevets qui sont au cœur des revendications que vous venez de rappeler.
Avant que nous quittions cette conversation consacrée aux droits d'auteur et aux brevets à travers les âges, je vais vous faire entendre une archive de nature différente. C'est un propos de Georges Auric, le grand compositeur, dans Actualité de Paris, le 11 février 1958. Et vous allez voir pourquoi je l'ai choisi.
Voilà, avec ces cinq notes, on peut... en Amérique, avec le système de législation, vous demandez sérieusement 2 millions de dollars, c'est-à-dire, faites un petit calcul, 800 millions de francs. Et ce qui est épouvantable, eh bien, c'est que si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous défendre, d'avoir de solides avocats derrière vous, de pouvoir faire un voyage tout de même assez long, qui consiste à aller d'abord de Paris à New York et ensuite à Washington, si vous n'avez pas l'énergie suffisante pour vous expliquer de 10h du matin à 4h30 de l'après-midi, comme je l'ai fait jeudi dernier, devant un tribunal américain, eh bien, je ne suis pas tellement certain que vous ne seriez peut-être pas condamné pour avoir copié, paraît-il, ces 5 notes. Alors, je reprends ces 5 notes et ceci ira très vite. J'ai immédiatement fait remarquer au juge américain que, ayant été soldat, comme beaucoup de Français, je pense, il m'est arrivé d'entendre une sonnerie de trompette fort connue, qui est ceci. Bon. Alors. De quoi s'agit-il une seconde fois? Il s'agit d'un monsieur américain qui, après tout, a peut-être plagié 5 notes dans le répertoire des sonneries de l'armée française. Et peut-être pourrait-on se retourner et lui redemander reconventionnellement 4 millions de dollars.
En plus, 16... il a un bon commerce.
Je pense que monsieur Gaillard me serait très reconnaissant d'obtenir, non pas 800 millions, mais 1600 millions pour notre gouvernement.
Je rappelle que M. Gaillard, c'est Félix Gaillard qui était ministre des Finances et un des derniers présidents du Conseil de la 4e République. C'est lui qui tenait à l'époque les cordons de la bourse. Mais au-delà de cette précision, on voit là toute l'ambivalence du droit d'auteur qui peut avoir aussi des excès tout en étant à juste titre farouchement défendu.
Tout à fait. Et on voit aussi qu'à plusieurs siècles de distance, le procès est toujours là. Il est toujours possible. Et il est toujours possible pour des choses qui peuvent paraître dérisoires. 5 notes, un jingle. Et cela renvoie finalement à l'omniprésence actuelle de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est partout. Dans l'usage d'une photo pour un support de cours, par exemple. Dans l'usage d'une petite mélodie. Il est nécessaire d'avoir conscience de son développement, de son histoire, pour pouvoir... aussi avoir voix au chapitre sur les grandes décisions politiques qui peuvent être prises sur un sujet qui fait notre quotidien.
Et qui est politique, qui n'est pas seulement intellectuel, qui n'est pas seulement juridique, qui n'est pas seulement économique, mais qui est fondamentalement politique. Ce pourrait être notre dernier mot peut-être.
Tout à fait, fondamentalement politique et qui du coup nécessite une analyse historique.
Nous y voilà. Merci beaucoup Gabriel Galvez-Béard. Votre livre sur lequel j'ai fondé notre conversation s'appelle « Histoire de la propriété intellectuelle » et vient de paraître aux éditions de La Découverte. Et puis antérieurement, vous aviez offert un autre ouvrage qui s'appelait « Posséder la science, la propriété scientifique au temps du capitalisme industriel ». C'était aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales en 2020. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission de toutes les façons possibles, en pleine liberté. Et nous ne vous ferons pas payer de droits d'auteur.
Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par ses terres fut enchantée. Des dancings aussi.
Eh bien, avec en arrière-fond la java du diable, chanson fameuse de Charles Trenet qui évoque les droits d'auteur. Sur cet arrière-fond, je vous rappelle que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Loïc Duros à la prise de son, Nathalie Rouvillain et Joséphine Lafaille à la discothèque, et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
On n'entendit plus de java dans les champs et dans les villes. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer.